En début de semaine, on apprenait que du côté, évidemment, du cabinet du Bloc québécois, on a dévoilé par la formation politique plusieurs nouvelles responsabilités de leurs élus. La députée de Manicouagan, Marilyn Gill, sera officiellement porte-parole en matière d'affaires autochtones et du Nord. Et pour nous parler de ce nouveau rôle, de cette nouvelle responsabilité, elle est avec nous. Bonjour, Madame Gill.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de prendre du temps pour évidemment nous parler de cette nouvelle grande responsabilité. Je vais utiliser le qualificatif très grande responsabilité, surtout en ce moment. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette confiance-là de votre chef?
C'est certain que la première des choses, j'ai été touchée, je dois vous avouer, parce que pour moi, c'est un dossier qui me tient énormément à cœur. J'avais travaillé sur C15, entre autres, là, pour la reconnaissance de la Déclaration des Nations Unies. Je ne vous cacherai pas, oui, justement, que c'est un dossier auquel je tiens énormément et certain de la reconnaissance parce que pour moi, c'est une marque de confiance. On sait tout ce qui se passe présentement. D'ailleurs, au cours des dernières semaines, on a été éprouvés de différentes façons. Là, entre autres, on a lu, bon, le rapport Échaquouane, oui, c'est à Québec, mais reste que, bon, c'est dans un grand ensemble. Bien sûr, la première journée de commémoration. Donc, j'étais à Ottawa, j'étais également à Manawatenam pour la journée. On a eu le 4 octobre, les femmes paru assassiné. Donc, c'est vraiment un moment très, très fort présentement, évidemment, pour tout, je dirais, tous ces dossiers. J'aime pas ça appeler ça des dossiers. Ça concerne des humains à la base, mais bref, pour toutes les actions qu'on doit entreprendre. Donc, pour moi, c'est ça, de la reconnaissance, l'humilité aussi, mais de voir la confiance du chef et une certaine, je dirais, une certaine pression, mais dans le sens positif du terme, c'est quand on donne un dossier comme ça, on sait qu'on a confiance en nous, mais je mesure la taille aussi, la taille du travail, la taille du défi en même temps. Donc autant honoré que stimulé en même temps par les choses. Donc je suis déjà en train de travailler bien sûr dans le dossier, mais c'était beaucoup de réactions, mais en effet c'est un dossier tellement grand qui vient susciter plusieurs choses chez moi, je vous dirais.
Bien, vous l'avez dit, hein, dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé des affaires autochtones. Ça a été très important. Il y a des endroits où on a préféré peut-être garder cette journée-là pour justement prendre le temps de réfléchir à la vérité, à la réconciliation. On met en lumière aussi pour ne pas oublier ce qui s'est passé avec les femmes disparues, les enfants disparus. Avec votre expertise, votre expérience aussi à titre de députée fédérale dans Manicouagan, partout sur la côte nord, comment qu'on accueille autant de mouvements, comment qu'on accueille en fait le fait de mettre autant d'emphase pour essayer de réparer les choses?
Je pense que c'est bienvenu. Je peux vous donner un exemple justement du pourquoi quand je suis allée à Manawatenam, la volonté des communautés autochtones. J'ai parlé aussi à beaucoup de gens parce que bon, pas nécessairement les gens nous écrivent aussi. Il y a des gens qui m'ont écrit qui veulent se sentir partie prenante de la chose. Donc la journée de commémoration n'est pas seulement pour les Premières Nations. Bien sûr, ce sont elles au premier chef, mais reste que c'est aussi pour les Allochtones parce que si on veut parler de vérité et de réconciliation, hein, ça se fait pas. Ça se fait pas seul et les Premières Nations veulent bien sûr avoir comme alliés les Allochtones. Donc vraiment l'accueil est très bon et je vous donnerai un exemple justement pour la journée. C'est un exemple mais qu'on a vu sur le web là, pour la journée nationale. Il y avait un macaron pour Facebook qui avait été créé et même si les gens, il y en avait plusieurs qui avaient été créés et les gens l'ont tous revêtu. Je vous dirais, les gens de la Côte-Nord, évidemment, il y a beaucoup de gens, moi, que je connais de la Côte-Nord qui sont sur ma propre, que je vois défiler dans ma, voyons, dans ma, comment on dit ça, hein, j'oublie parfois, là, dans pas mon historique. Mais bref, j'ai vu que les gens, oui, c'est ça, je cherche le terme, là, mais oui, et
dans le
voilà.
fil d'actualité.
Merci, le fil d'actualité. Donc, c'est ça que j'ai vu défiler et je voyais à quel point les gens se sont emparés, de la journée et qui montraient également leur solidarité tant à l'Octone qu'Autochtone. Donc, moi, ça m'a aussi fait chaud au cœur, comme députée parce qu'on voit qu'il y a une volonté de la population aussi d'écouter et je pense que ça les a tout autant marqués, Kamloops, par exemple, puis les enfants pour la question des pensionnats, même si on savait déjà, je pense qu'ils ont été marqués aussi et touchés et ont la même volonté que quelque chose comme ça ne se reproduise jamais, mais qu'on trouve une façon de réparer aussi, même si on sait très bien que bon, une réparation totale, ça ne se fait pas, mais bref, qu'on essaie de se réconcilier.
Oui, puis j'aurais aimé aussi vous entendre parce que, évidemment, on est peut-être à la recherche de trucs ou de façons d'aider aussi pour pouvoir se rappeler, pour pouvoir essayer, comme vous l'avez dit, ça ne se dit pas réparer nécessairement, mais d'essayer d'être beaucoup plus sensible à la cause. Il y a eu des gens qui ont dit on va commencer par changer nos termes, le terme indien, amérindien, réserve, ce serait des termes qu'on devrait abolir. Ça pourrait être déjà un premier pas pour venir aider la cause puis être beaucoup plus sensible dans les discussions entre justement entre élus ou même au Parlement. Est-ce que déjà ça, vous voyez une différence dans les termes choisis?
Bien, je pense qu'il y a déjà une conscientisation qui a été prise.
Ouais.
Les gens disent plus indiens ou pire encore sauvages ou bon,
ouais.
ça ne se dit plus depuis longtemps pour des raisons. Bon, les gens ont compris quand on parle, bon, juste l'historique du mot indien là, qui vient de l'Inde,
Oui.
en fait. Donc, il n'y avait pas quelque chose de péjoratif au départ avec ça. On pensait tout simplement qu'on était rendu en Inde, comme le blé d'Inde. Mais vous voyez, le maïs, mais reste que bon, ça, c'est quelque chose qui est déjà acquis depuis longtemps. Je dois vous dire que pour le terme réserve, moi-même, je n'arrive pas à l'utiliser. Je préférais le mot communauté. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de dire le mot. Mais à mon avis, bon, là, on est sur le plan symbolique. On est sur le plan, même si la symbolique peut véhiculer un respect. Là, on parle de respect aussi en utilisant ces termes-là. Reste que la réalité qui s'appelle la réserve demeure. Donc, changer les mots, ça ne change pas nécessairement la réalité. Ça peut contribuer à, ça peut
Ouais.
être précurseur dans une certaine mesure, mais il faut aller plus loin que les termes. Mais pour moi, oui, il y a déjà quelque chose qui est acquis, vraiment pour la certaine terminologie, mais évidemment, il faut toujours continuer à travailler avec les Premières Nations. Justement, même je parle avec des collègues qui aiment mieux le terme aborigène qu'autochtone. Bref, il faut suivre aussi les Premières Nations. Ce sont elles qui vont définir justement les termes qu'elles souhaitent qu'on utilise. Mais vraiment, on le voit que ce soit dans l'enceinte de la Chambre des communes ou à l'extérieur avec la population, vraiment de façon générale, là.
Ouais.
Il y a toujours des exceptions, puis des fois c'est pas non plus mal intentionné quand les gens vont dire, souvent quand c'est des termes qu'on utilise depuis longtemps, mais reste que moi je trouve que c'est déjà présent, mais il faut toujours continuer, bien entendu, parce que ça permet, je trouve ça intéressant parce que ça amène à autre chose aussi. Les mots, souvent, vont véhiculer des stéréotypes et des préjugés. Donc, le fait de se dépouiller de certains mots qui étaient très, bon, je veux dire, connotés, là, le terme est fort, mais oui, qui avait vraiment une grande teneur négative, ben là, on oublie ces mots-là, on en place d'autres. Évidemment, ça fait partie de tout le grand mouvement, oui.
Oui, ça peut être une belle évolution. Et
Oui.
évidemment, vous ne serez pas seulement porte-parole en matière d'affaires autochtones et du Nord. Vous allez être aussi whip adjointe pour monsieur, madame, tout le monde. Whip adjointe, qu'est-ce que c'est?
Ben, si je pars du début, ben, dans tous les partis politiques, il y a ce qu'on appelle des officiers. Donc, c'est un cercle, si vous voulez, un peu plus près du chef dans les affaires parlementaires. Donc, il y a deux cabinets, le cabinet du leader. Donc, le leader, lui, va se charger surtout de tout ce que sont les travaux parlementaires, les projets de loi, etc. Donc, on a des idées, on veut les mettre en projet de loi, ça va être le leader. Tandis que du côté de la WIPRI, là, du cabinet de la WIP, on se charge surtout de ce qu'on va appeler la discipline de parti pour ce qui est de la WIP. Et moi, je suis l'adjointe de la WIP, mais j'ai quelque chose de très particulier comme terrain de jeu. Je suis responsable de la diplomatie parlementaire. C'est-à-dire que pour le Bloc québécois, toutes les activités avec, soit s'il y avait des chefs d'État ou des ambassadeurs ou de différents parlementaires qui viennent nous visiter, ou si on va ou on accueille des délégations étrangères de parlementaires. Donc, ça va être mon bureau, ou également s'il y a des députés qui sont amenés à se rendre à l'étranger pour représenter le Québec au sein de la délégation canadienne. Donc, ça, c'est mon bureau qui s'en charge. Donc, c'est beaucoup, c'est vraiment de l'international là, et de toutes les associations parlementaires. Il y en a plusieurs. Les gens ne savent pas toujours, mais oui, il y a beaucoup de liens avec les autres pays. D'ailleurs, pour moi, pour les affaires autochtones, c'est quelque chose de très intéressant. Je fais partie d'une association de plusieurs parlementaires, bref, d'autres députés d'autres pays. Voilà, donc c'est vraiment une autre grosse partie du travail. C'est très différent là, mais ça demande, quand on est officier, on est 4 officiers en fait là. Donc deux, le leader, la whip, la leader adjointe et moi comme whip adjointe. Donc on est 4 officiers et c'est la moitié de ma semaine au moins sur la colline là. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Je dis la moitié, mais je pense qu'il doit y avoir 4 moitiés dans une semaine. Ce sont des grosses semaines ici.
Oh, ben donc, un troisième mandat avec beaucoup de responsabilités et surtout beaucoup de travail.
Oui, mais j'en suis très heureuse. En même temps, je remercierai mon chef pour cette confiance, parce que la première fois, il ne me connaissait pas. Il m'a confié une responsabilité. Donc, je me dis, s'il me la donne puis qu'il augmente mes responsabilités, ben il doit me faire confiance. Et comme je dis, c'est un petit peu de pression, mais en même temps, c'est beaucoup de bonheur de le savoir.
Tout à fait. Ben, Madame Guin, merci d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée.